Vous écoutez France Culture. École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretient avec Pierre-Louis Calixte de la Comédie-Française.
Vous êtes Pierre-Louis Calixte, le 33e sur ce plateau, sur ces plateaux, puisque nous avons été pendant une année au Vieux-Colombier. Et voilà, 33, ça commence à compter. Rue Gilles-Cœur, numéro 33. Vous vous souvenez de cette chanson qu'interprétait, je crois bien, Juliette Gréco. Donc vous êtes sociétaire et après avoir bien entendu été pensionnaire, vous l'avez été assez vite sociétaire, 5-6 ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans. Mais avant ça, parce que je sais peu de choses, nous savons peu de choses de l'origine de votre envie de devenir comédien, et ça c'est tout à fait indispensable dans École d'acteurs que de vous écouter à ce sujet. Alors c'est venu comment ?
C'est venu, je pense, d'une incompatibilité avec la réalité. C'est-à-dire que j'étais pas un enfant scolaire. Je ne me plaisais pas beaucoup à l'école, et ce, dès le premier jour, je pense que j'ai détesté l'école. J'étais sans doute ceux qui pleuraient, qui voulaient pas, qui étaient inconsolables. Ça m'a poursuivi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout apprécié ces moments-là dans ma vie. Et j'avais vraiment l'impression qu'en même temps d'être résumé à ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que oui, autant ma... Alors, nous sommes deux enfants, ma sœur Sophie était très brillante, elle. Et mes parents n'ont jamais fait de comparaison entre nous, mais je me rappelle très bien lorsque des gens venaient à la maison, on demandait toujours, et alors, Sophie, comment ça va? Sophie, elle est brillante, ça se passe très très bien à l'école. Et Pierre, oh Pierre, il s'amuse. Et en fait, j'en souffrais, mais comme souffrent les cancres. C'est-à-dire que derrière le sourire du cancre, il y a souvent, pas obligatoirement, que de la rigolade, quoi. Et je trouve qu'enfant, en plus, on n'a pas l'occasion beaucoup de se définir autrement. Sauf dans le jeu, en effet. Dans le jeu, déjà, on dirait que je serais Superman, on dirait que je serais Zorro, on dirait que je serais... Voilà. On peut se projeter comme ça. Et dans le terrain de la fiction, alors, des univers s'ouvrent qu'on n'a pas, en fait, dans la réalité, parce que c'était aussi une manière de dire, mais j'en parle aujourd'hui, évidemment, tout ça était totalement inconscient. Enfant, je n'en avais aucune conscience. En prenant du recul, je me suis dit, oui, la réalité ne me convenait pas. J'ai l'impression de répondre à un programme que je n'avais pas écrit, en fait. Et tout ça est devenu plus simple le jour où je me suis mis à faire du théâtre, où là, j'ai vraiment... C'est un paradoxe, mais là, j'ai vraiment eu l'impression de vivre ma vie. Que d'emprunter celle des autres, en fait, c'était vraiment ma vie.
Oui. Ça se passe où, ça ?
Ça se passe où ?
Le début du théâtre. Quand vous dites « j'ai commencé de faire du théâtre », vous étiez dans quel coin de France, dans quel contexte ?
En fait, les grands souvenirs que j'ai... D'abord, c'est les cours de français. J'aimais pas lire, donc ça, c'est sûr. Je me suis mis à lire tard, et d'ailleurs... Maintenant, j'ai l'impression que j'ai un temps à rattraper, donc je dévore un peu. Mais je me suis mis à lire tard. Mais j'ai l'impression que la première expérience théâtrale, oui, c'est en cours de français. C'est-à-dire que c'était à Yaoundé,
oui,
au Cameroun. Mes parents étaient dans la coopération et on avait vécu 3 ans là-bas. Je crois que c'était 80, 81, 82. Bref, j'étais en 5e, je crois. Et en cours de français, on avait des récitations, hein, et il y avait une scène de Molière. On étudiait l'avare, et je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait, ça s'est passé comme ça. Je me suis mis du talc dans les cheveux, et je suis arrivé à l'école avec la canne de mon grand-père et des costumes que j'avais trouvés. Et je me suis mis à jouer la scène. On m'a dit, voilà, passez votre récitation. Et j'ai joué la scène. Je crois que c'était Orage ou Désespoir. Qu'est-ce que je raconte?
Peut-être.
Non, mais c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est une scène que j'ai reprise. L'une de mes premières auditions, c'était ça. On m'a demandé, j'avais une vingtaine d'années. Et on m'a dit, mais pourquoi vous prenez cette scène de vieillard? Et je dis, mais parce que c'est ça que j'ai envie de dire. Orage ou Désespoir, vieillesse ne dit. Non, là, c'était l'avare et c'était après le vol de la cassette. Gérard, tu te rappelles mieux du texte que moi, mais c'était, oui, à l'assassin, au meurtrier, voilà, je crois que c'était ça. Et je me rappelle surtout déjà, tout d'un coup, de ce qui m'arrivait, de voir les yeux de mes camarades un peu éberlués devant le fait que je m'étais vraiment costumé, alors que la plupart du temps, les gens récitaient leur scène, et j'ai pris conscience d'une chose formidable, que tout d'un coup, je me mettais à exister très fort. Oui. Voilà. Et que ce besoin de reconnaissance que j'avais, cette sensation que la réalité m'offrait une identité trop étriquée, qu'une personnalité était bien plus vaste que simplement des résultats scolaires. Voilà. C'était un moment...
Ça, c'est le moment où vous prenez conscience du plaisir, du bonheur, de la satisfaction que
ouais,
vous éprouvez.
Et puis c'est le moment où je vois aussi que ça
accroche.
Ça n'intéresse pas que moi, en fait.
Alors,
qu'il y a une chose qui est interactive.
Un peu plus tard, dans l'adolescence, etc., qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous amène à, j'imagine, apprendre l'art dramatique?
J'ai sans doute été... Cette chose-là de vivre une vie qui n'était pas la mienne, je l'ai eu assez longtemps quand même. J'ai été suiveur assez longtemps et j'ai suivi après tout ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc il fallait que je passe mon bac, donc j'ai passé mon bac. Il fallait que je fasse des études supérieures, donc j'avais fait un entretien. On m'avait dit soit avocat, soit acteur. Donc... Je m'étais inscrit en droit, histoire de faire sérieux.
Vous étiez en France à ce moment-là?
Oui.
Vous avez quitté le Cameroun?
Oui, oui, j'étais rentré. J'ai fait une année de droit, mais une seule. Non, mais parce que, voilà, c'est étrange, mais j'avais l'impression, en fait, que là, non seulement c'était comme d'habitude, on me demandait de régurgiter de la connaissance... Hein, mais de régurgiter de la connaissance dans un plan très précis. Grand A, grand B, grand 1, grand 2, petit A, petit B, alpha, bêta. Et j'ai l'impression que j'avais pas du tout envie de faire ça, quoi. C'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. Et j'ai essayé, mais c'était pas ça, quoi. Donc j'ai eu des parents formidables. Je leur ai dit que j'arrêtais le droit. Et ils ont été formidables parce qu'ils m'ont dit, vas-y, il se faisait beaucoup de soucis. Ma mère particulièrement, mais mon père aussi, il se faisait beaucoup de soucis, mais ils m'ont accompagné. Et c'est très précieux parce que j'ai rencontré plus tard des camarades qui n'avaient pas du tout eu le même sort que moi et qui ont dû se battre. Qui ont dû se battre pour vivre parce qu'ils avaient été mis à la porte, parce qu'on n'est pas si loin de Molière que ça, quoi. Ouais. Que ça reste une profession, dans certains milieux, peut-être un peu honteuse et que. Voilà, ils se sont retrouvés à devoir vivre de leur propre... en se débrouillant tout seul, quoi. Et moi, j'ai eu qu'à jouer. J'avais qu'une seule chose, c'est que je devais m'inscrire à la fac. Alors, heureusement, il y avait une fac théâtre à Sancier qui existe toujours, je crois.
Oui. Paris 3.
Voilà. Et j'ai été à Sancier, c'était formidable, hein. J'avais que ça à faire. Hein. J'allais à la fac l'après-midi et le soir, j'allais au cours.
Voilà. Quel cours?
Alors, j'ai commencé par les cours Florent, une année. Une année, et c'était très intéressant, parce que je pense qu'on apprend partout quand on est jeune acteur, quand on est dans ce désir-là. D'apprendre, on apprend partout. Mais après, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, en fait. Dans une chose, je crois que j'avais envie, n'étant pas ce qu'on appelle une bête de scène. Et moi, j'en ai vu des gens qui rentrent en scène et on fait « waouh !» Et très jeunes, hein, des gens qui n'ont pas obligatoirement fait une carrière, d'ailleurs. mais très jeune, des gens qui rentraient en scène, c'est... alors que moi, j'avais à lutter contre mon palpitant, j'avais à des choses à faire pour me calmer, pour... C'était compliqué quand même, hein. J'étais persuadé d'avoir envie de ça, mais il fallait que je persuade les autres, quoi. C'était pas une évidence flagrante, hein, quoi. J'étais pas... Non, j'étais pas évident, je crois.
Pour des raisons physiques ?
Non, pour des raisons, mais non, mais vous savez, je sais pas, il y a des gens qui rentrent et qui ont jamais fait de théâtre et ils rentrent en scène et il y a quelque chose dans la texture de l'air qui change, quoi, qui font que même sans expérience, il y a quelque chose où on se dit, waouh, j'étais pas du tout à cet endroit-là. Moi, j'étais laborieux, quoi. Mais j'étais passionné. Pour la première fois, j'ai l'impression d'enfin de décider de ma vie, de pouvoir faire. Et j'étais exactement à l'endroit où je devais être. Donc, quelque part, c'est allé très vite. C'est allé très vite, parce que quand on sait ce qu'on veut faire, ça va beaucoup plus vite.
Et après le cours Florent, donc cette année unique, où allez-vous précisément ?
Je vais à l'école de la Belle de Mai. J'ai ce désir-là, en fait, je crois, justement, n'étant pas obligatoirement... Il y avait une chose qui m'étonnait toujours au cours Florent, c'est que les gens arrivaient et disaient « j'ai ma réplique ». Au départ, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai ma réplique. Parce qu'en fait, la réplique, c'était quelqu'un. C'était pas une chose, hein. C'était un véritable individu. Et donc, ça m'étonnait. Je pense que j'avais envie d'une chose plus collective. Oui. Et j'avais une amie à la fac de Sancier qui m'avait parlé de cette école, qui était l'école de théâtre de la Belle de Mai, qui était dans le quartier Saint-Blaise. Et j'étais là. Il y a ma mère qui est juste là. Je m'en aperçois maintenant.
Le quartier Saint-Blaise à Paris, dans le 20e.
Ouais.
Bien sûr.
Et donc voilà, je suis allé là. Et ça, c'est là aussi, c'était très très enrichissant parce qu'on a travaillé avec plein d'intervenants différents, plein de metteurs en scène différents. Et donc c'était aussi apprendre que il n'y a pas une manière de jouer une scène, qu'un tel va vous dire ça sur la même scène et qu'un tel va vous dire autre chose sur cette scène-là et que ce sera tout aussi vrai. Simplement, c'est à vous aussi d'aller prendre là aussi ce qui vous intéresse. Ça permet aussi de se positionner, je trouve, par rapport à sa propre appréhension du métier, de se dire « Ah ben oui, c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'aller ». Ça permet aussi de mesurer la multiplicité des théâtralités ou des sensibilités qui peuvent exister. Il n'y a pas une vérité, voilà, qu'on peut jouer la scène de mille manières différentes. Et ça, c'était assez passionnant.
Vous vous souvenez que, sauf erreur de ma part, il existe une pièce d'Armand Gatti qui s'appelle « Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise ». Ça vous dit quelque chose, ça ?
Non.
Ça a été monté il y a très 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 longtemps au TEP. Au théâtre de l'Est parisien à l'époque de Guiré-Thoré, c'était pas encore le théâtre de la Colline à l'époque. C'était un théâtre national de quartier, si j'ose dire. Et je suis à peu près certain qu'ils avaient monté cette pièce qui précisément se déroulait dans le 20e arrondissement. Quand vous avez dit Saint-Blaise, ça m'a rappelé tout ça qui remonte à peut-être 40 ans, je sais pas, 35 ans en tout cas. Et ça avait été travaillé par Rétoré et par Gatti. On connaît ses positions très militantes en matière de théâtre. Ça avait été travaillé avec les gens du quartier, c'est pour ça que j'y pensais. Bon, poursuivons avec vous, la Belle de Mai, donc dans le quartier en question, dans le 20e.
Et c'est un lieu étrange parce que c'est un lieu par lequel on descendait, c'est-à-dire on descendait sous la terre. Et c'était assez étrange parce que je me rendais compte qu'il fallait vraiment lutter contre la perte d'énergie qui se faisait en descendant. Ouais. C'était une chose physique qu'on observait, hein. C'est-à-dire que quand on arrivait, on était vraiment sous la terre. On descendait, je ne sais pas, on devait descendre plus de 10 mètres.
Ah oui.
Ah oui, largement, plus de 10 mètres. Il y avait 3-4 étages, donc oui, plus de 10 mètres, on arrivait vraiment sous la terre. Il fallait lutter pour garder quand même un petit peu d'énergie. On a l'impression que plus on quittait le niveau du... Plus on quittait la terre ferme, plus on s'enfonçait, plus on devenait des taupes. Oui. Ouais, alors, je ne sais pas si les taupes n'ont pas d'énergie. Hein. Peut-être qu'elles en ont beaucoup, je me trompe. Mais j'avais l'impression que l'énergie, ça me nuisait. Il fallait lutter un peu.
Vous jouiez quel style de spectacle ? En sous-sol, là.
On faisait pas mal de choses, mais la chose qui m'avait marqué, c'est que en fin de première année, en fait, le directeur de l'école, Jean-Christian Greenwald, avait monté en fait une adaptation de La Tempête de Shakespeare. et dans lequel il m'avait donné le rôle de Ferdinand. Et ça, pour moi, c'était formidable. Et ce qui était encore plus formidable, c'est qu'il nous a emmenés avec ses deniers, parce que c'était cher à l'époque, il nous a emmenés à Avignon. Et on a eu l'opportunité de jouer cette pièce-là, alors devant quasiment personne, hein, on est d'accord, à Avignon, off, avec Parade et compagnie. Je me vois encore en train de
sillonner,
tracter, faire des bouts de scène sous une canicule terrifiante. Mais voilà, quoi. Mmh. Mais on avait cette opportunité de jouer tous les soirs en Avignon, d'être dans la réalité aussi de ce que c'est que ce métier, quoi. De toutes ces troupes qui font vivre aussi le festival, l'air de rien, hein. Toutes ces troupes du off qui font vivre la ville aussi. Et dans cette âpreté du métier aussi, qui est compliquée, je me rappelle d'un jour, on a joué devant un spectateur. Et c'était un spectacle qui était en rond et on l'avait coincé. On l'avait coincé sur un... Il y avait quelques chaises tout en rond autour de la scène. C'était une scène en rond. Et il avait une vingtaine d'élèves survoltés qui lui jouaient tout dans les yeux, quoi. Il devait être terrifié, le pauvre. Mais il était resté. Avait-il vraiment le choix? Mais oui, ça avait dû être une expérience très très forte pour lui.
Vous aviez quel âge à ce moment-là? 18 ans, quelque chose comme ça?
Ouais, j'avais une vingtaine d'années, je pense.
Ouais. Donc vous n'êtes pas encore un professionnel de l'art dramatique à ce moment-là?
Non. Non, vous savez, c'est un des rares métiers où on devient professionnel quand on a son statut de chômeur, en fait.
Oui, oui. Vive l'intermittence.
Ouais. Quand on a assez d'heures pour s'inscrire au chômage, alors on est considéré comme professionnel.
D'accord.
Alors, c'est là où j'ai commencé les premières manifs pour sauver l'intermittence.
On est encore loin de la Comédie Française.
Oui, on est encore loin de la Comédie Française. Mais c'est que des enchaînements, en fait. Hein. Ouais. C'est des enchaînements de rencontres. Ce voyage à Avignon me fait rencontrer en fait la compagnie avec laquelle je vais travailler plus tard, l'année d'après, qui est Carcara Producteur.
Mmh.
Voilà. Et l'année d'après, en fait, cette compagnie, moi, je pour gagner un petit peu d'argent, je m'occupe du bar le soir dans ce lieu-là. Et il y a un spectacle qui se joue à côté qui s'appelle Faux de Coutsé, d'après un texte de Coutsé. C'est l'histoire de Robinson. Il y a une comédienne, un guitariste, du sable et un miroir sans teint. Voilà. Et je peux dire tomber en amour, ouais, comme disent les Québécois. Je tombe en amour de ce spectacle-là. Parce que c'est un spectacle très très beau, c'est un spectacle sur la narration, c'est un spectacle qui n'est pas du tout naturaliste d'ailleurs, qui est vraiment sur le fait de raconter une histoire et avec de la musique. Et je suis sous le charme de ce spectacle et voilà, c'est une rencontre qui se fait, qui est réciproque. Et l'année d'après, cette même compagnie m'appelle pour faire Dissident, il va sans dire, de Michel Vinaver.
Mm-hmm. Voilà. Que vous allez retrouver ici d'ailleurs.
Voilà, et c'est comme ça en fait que j'accède petit à petit au statut d'intermittent.
Ouais. Donc là, vous avez 22, 23, quelque chose comme ça. Alors, racontez-nous ce qui vous amène et qui vous emmène à la Comédie Française, d'abord comme pensionnaire. Comment ça se passe,
ça ? Ça se passe d'une manière assez simple et en fait assez brutale aussi, qui est qu'un jour, je reçois un coup de fil de Muriel Mayette qui me demande si je veux bien faire partie de la Comédie Française. Le problème, c'est qu'elle me dit ça, ce qui est une grande joie, quand même, pour un acteur, qu'on lui fasse cette proposition. Pour moi, c'était une... En plus, c'était vraiment une chose que je m'étais dite une fois dans ma tête. Si à 40 ans, ça ne marche pas, ce métier-là, tu feras autre chose. Et à 40 ans, elle m'appelle. Une espèce de chose un peu comme ça, quoi. Je vous assure que c'est vrai. Mais elle me dit ça, et en même temps, elle me dit... voilà, Daniel Znik est décédé. Mmh. Et alors, c'était très compliqué à gérer, parce que c'était... Je devais ce grand bonheur à la mort d'un grand acteur. Je ne connaissais pas personnellement Daniel, je connaissais l'acteur, je connaissais aussi parce que j'avais travaillé avec Philippe Faure, et ils étaient très compagnons de jeu, tous les deux, et très amis. Et bref, voilà, il me fallait me gérer dans le même temps une grande joie et une grande peine, une grande perte et un grand bonheur. Et c'est assez compliqué. Et donc je lui ai dit, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Elle m'a dit, je comprends tout à fait. Et je l'ai rappelé, évidemment, le lendemain, en ayant pris le temps de la peine aussi.
Où vous avez-elle vu ?
En fait, je dois beaucoup aussi à Pierre Note. Pierre Note venait d'être nommé par Muriel.
Secrétaire général.
Voilà, secrétaire général. Et Pierre Note avait à peu près tout vu de ce que je faisais. Et il l'avait emmené voir Pinocchio en rond, sous chapiteau, et Macbeth. Sur une chose très... avec des douches, comme ça, une chose un peu protestante, un peu dure, comme ça. Avec que des douches, si on sortait d'un centimètre, on n'était plus en lumière. Alors que Pinocchio, c'était en rond, sous chapiteau, c'était vraiment une toute autre forme, quoi. Et voilà, il lui avait parlé de moi, en fait. Il était très, très fan. Et je crois qu'elle l'a cru sur parole. Elle a cru sur parole et elle a dit « banco ». Voilà. Et après, elle m'a reçu et elle a dit « oui ». J'ai tenté de la questionner sur « mais vous m'auriez vu ». Et sa réponse a été suffisamment vague pour que j'insiste pas. Je me suis dit
« vous savez que...
profitons d'un malentendu ».
Mais ça n'était pas du tout un malentendu, puisque d'autres de vos camarades, ici même, dans des circonstances comparables, nous ont raconté avoir été appelés par Muriel. Et l'un d'entre eux, je peux le citer, c'est public, puisqu'il l'a dit ici même, c'est Serge Bagdasarian. Bagdasarian nous a dit, j'ai été engagé par un administrateur général, une administratrice générale, qui ne m'avait jamais vu sur scène.
C'est ça. Je crois que c'est mon cas aussi. Je crois qu'elle avait fait une confiance totale à Pierre.
Note, oui.
Et Pierre avait tout vu. Et même quand je l'appelais, je lui disais, Pierre, vraiment, je te jure, là, c'est pas utile, te déplace pas. Et il venait et il était formidable. C'est un être qui a beaucoup compté pour moi. Et c'est vraiment, à mon sens, un amateur de théâtre au sens d'aimer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était journaliste. Il n'écrivait pas quand il n'aimait pas. En revanche, quand il aimait, il faisait vraiment de la promotion d'un spectacle ou d'un acteur.
Vous voyez, on est au cœur vraiment de la raison pour laquelle on a commencé ces séries il y a quelques années maintenant. Donc, vous dites oui à Muriel Mayette et vous voici engagé, embauché, vous rejoignez la troupe.
Ah ben oui, très très rapidement, puisque 10 jours après, moi je jouais. C'est-à-dire, c'était assez...
On avait vraiment besoin de vous. Alors,
oui, j'ai signé. Ben oui, parce que le spectacle était en tournée. C'était le Tartuffe de Marcel Bozonnet qui était en tournée. Et donc, je sais que Michel Favori avait repris le rôle en catastrophe. Il l'avait joué il y a très longtemps, je pense. Il y a une vingtaine d'années, il avait joué
Cléante,
ce rôle-là.
Hein, sauf erreur.
Absolument, Cléante, le rôle que joue Serge, dans la mise en scène de Galine. Et oui, je me retrouve, je signe. Je me retrouve 10 minutes après dans les ateliers et on me passe, ça c'est aussi une expérience assez forte, je suis devant Renato qui me passe le costume de Daniel. Et pour ceux qui connaissent Daniel, c'était vraiment pas le même corps.
C'est pas le même corps.
Du tout la même corpulence. Et Renato me passe le costume et j'ai tout de suite... Des couturières qui prennent leurs épingles et clac, 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 qui font le costume à ma taille. C'est-à-dire, elle me passe réellement le costume, pardon, mais le costume du mort. Et c'est une drôle de chose. Là, c'est vraiment physique. C'est une drôle de chose parce que j'avais l'impression que Renato, à la fois, me passait ce costume-là, mais il le faisait bien. Quelque part, il me donnait l'autorisation de jouer après ça. Parce qu'il a repris le costume et il a dit « Ah, c'est marrant !» Avec l'intelligence de Renato, le coup d'œil formidable qu'il avait, de savoir à la fois regarder le costume et sur ce corps-là, qu'est-ce que ça signifie. Et il a dit « Ah, celui-là, il est différent. Regarde, fais un peu tomber les bas, il faut que ce soit un peu plus rock'n'roll. Fais un peu dégouliner le bas. » Et le bas plisse, se mettait à plisser. Moi, j'aimais beaucoup ça. Mais ça fait, il a fait ça en 5 minutes. Mais il m'a donné... Dans cette opération assez rapide, et assez violente quand même, malgré tout. Il m'a donné l'autorisation de reprendre ce rôle. Ça a été une chose très forte pour moi.
N'en doute pas. Vous connaissiez Marcel Bozonnet, qui avait donc fait la mise en scène à la création de... Mmh. Vous le connaissiez d'avant ou
non,
vous le découvrez
non,
à ce moment-là?
Non, je passe au costume. 5 minutes après, je suis avec une assistante et je travaille dans un décor nu. On me dit, là, tu verras, il y a une charrette. Là, le scotch, tu vois, c'est la charrette vers laquelle tu iras à tel moment et tu parleras à un tel qui sera là et tu diras ta réplique. Et on fait tout le spectacle comme ça, sans aucun acteur, puisque les acteurs sont en tournée. Elle me dit, avant de finir, elle me dit, Muriel, mais elle dit, vous avez déjà joué des classiques? Je dis, oui, oui, oui. Vous avez déjà joué Molière? Je fais, oui, oui, oui. Vous avez... Je dis, mais c'était Pierrot que j'ai joué dans Don Juan. Mais des vers, vous avez déjà joué des vers? Je dis, ben non. Elle me dit, ben très bien, vous apprendrez.
Ben vous avez appris.
Ben oui, de fait. Hein.
Donc ils vont finir quand même par revenir de tournée, hein, vos futurs camarades.
C'est moi qui vais les rejoindre.
Ah oui.
Et c'est là-bas que je rencontre Marcel. On a 2-3 services pour que je me mette le spectacle dans les pattes. C'est très très compliqué. Hein. C'est quelque chose. En plus, on joue dans des salles énormes. Moi, j'ai pas l'habitude du tout de.
La première que vous interprétez.
Je crois que c'est Orléans.
Ouais.
Il me semble bien que c'est Orléans. Et je me retrouve dans une salle immense avec des comédiens. Enfin, j'avais l'impression en fait de faire le jogging une fois par mois et de me retrouver avec des mecs qui faisaient le 1000 mètres tous les jours.
Ouais.
J'avais quand même cette vague impression et je me disais, waouh, ah oui, quand même. Là, il faut y aller parce qu'en plus, il suffit pas d'être juste, mais il faut être juste pour le dernier rang qui est loin, tellement loin. Donc ça a été, ça a été assez compliqué, mais les partenaires étaient formidables, ils connaissaient le spectacle par cœur, et je sais que sur le dernier acte, j'avais quelques trous, parce qu'on avait très peu répété quand même, trop peu répété pour moi, et je me rappelle très bien de Véronique Vella qui venait me sauver, qui passait vers moi, qui me donnait la réplique discrètement, et je la disais, et j'avais l'impression d'être supporté, d'être porté par la troupe. Comme rarement j'ai eu l'impression de ça ailleurs, en fait, parce que c'était vraiment, oui, une histoire de troupe.
Vous connaissiez les membres de la dite troupe lorsque vous les rejoignez à Orléans ou à peine?
Non. Non, je crois. Mais la Comédie Française était pour moi vraiment, même pas dans ce que j'aurais pu rêver. Hein. Je connaissais assez peu, comme ça, de réputation, mais. J'étais pas non plus un fidèle de la maison en tant que spectateur. Hein. J'étais vraiment plus, en effet, sur les routes avec la compagnie, à la fois technicien, acteur. Je montais le décor, on jouait, on démontait le décor. S'il y avait du monde qui restait, on parlait un peu, puis on partait, quoi. Enfin, c'était un rapport assez simple. En même temps, j'étais plus sur ce travail-là, quoi. Pour moi, la Comédie Française, c'était juste hors d'atteinte, quoi.
Oui, c'est assez magnifique quand même tout ça. Je trouve que ça donne terriblement confiance, votre histoire. Ce fait, au fond, bien sûr qu'il y a un facteur de chance ou un facteur d'opportunité, mais enfin, rien n'est fermé a priori, semble-t-il.
Non, mais en effet, quand on commence dans ce métier, on a intérêt à être très convaincu.
Est-ce que vous vous trouviez bien quand vous jouiez, quand vous regardiez dans la glace?
Ah, d'abord, je ne me regarde pas dans la glace.
Bah, quelquefois, on est obligé, ne serait-ce que pour revêtir un costume.
Ah oui, mais on ne joue pas. L'idée, c'est... Et peut-être, c'est la chose qui est difficile parfois quand on se regarde, justement. Il y a une chose incroyable où on prend conscience de la différence de ce qu'on pense jouer... Et la différence de ce qu'on voit, je crois qu'on est le pire spectateur pour soi-même, hein. Mais je préfère rester dans ce que je pense jouer du rôle, en fait. Et c'est pour ça que j'adore le théâtre et que j'ai plus de problèmes même au cinéma où à un moment on n'évite pas de se regarder. Ça, je crois qu'il y a une chose que je résous pas dans ma tête, en fait. Mais pourtant, j'adore, à chaque fois que j'ai travaillé avec la caméra, j'adore ça. Mais je préfère ne pas me voir, en fait. Je préfère rester sur la sensation que j'ai eue intérieure de ce qui s'est passé là, au moment. Et dans l'interactivité avec le spectateur, qui est... On parle du public, mais c'est jamais un public, c'est toujours des gens, c'est toujours une personne plus une personne plus une personne. Et chaque salle est mouvante comme ça. Et voilà, c'est cette rencontre-là qui me passionne, en fait. C'est se dire que nous, on a répété une chose pour faire que cette rencontre puisse se faire. On a rencontré l'auteur, après on a rencontré le metteur en scène, on a rencontré les partenaires. On a fait toutes ces rencontres pour rencontrer le public. Les publics, les personnes. Voilà, chaque personne, en fait. Que faire de que cette histoire, en fait, ce soit celle de chacun. C'est ça qui m'intéresse.
Je comprends. Autre chose, lorsque vous accédez ici à la place Colette et au Théâtre Français, vous allez vous trouver devant quelque chose qui est formidablement organisé, plein de métiers, plein de gens qui sont, au meilleur sens du terme, à votre service, en tout cas qui sont prêts à vous soutenir, à vous aider, à vous habiller, à vous maquiller, à vous mettre en scène, à jouer avec vous, etc. C'est une différence absolument radicale avec ce que vous avez connu, une époque où c'était vous qui dérouliez le tapis et qui serviez au bar et au besoin qui déchiriez les tickets.
Bon, exactement, là, mais figurez-vous que même on déchirait les tickets. C'est-à-dire qu'on s'était dit à un moment, à Carcara, on s'était dit que le parcours du spectateur... Il était très important, parce que si vous êtes mal reçu dans un théâtre, vous allez vous installer et vous êtes mal disposé à recevoir un spectacle. Donc on se disait, l'accueil du spectateur est fondamental, et donc on va aussi s'en occuper. Vu qu'on travaillait pas mal hors les murs, dans des théâtres qui n'étaient pas des théâtres, avec des gens qui n'étaient pas obligatoirement au courant des codes du théâtre. Hein, c'est par exemple... Comment par exemple, rassembler les gens quand on n'a pas de noir sale? Parce que justement, il n'y a pas de noir. On ne peut pas faire le noir. Hein? Comment créer l'écoute? C'est quoi? Donc nous, on s'interrogeait beaucoup sur réinterroger les codes de théâtre qui nous paraissent évidents quand on est dans une salle. Hein? Noir sale, lumière, on commence. Quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Comment on commence? Donc nous, on commençait par l'accueil des gens. Quand on travaillait hors les murs, on accueillait les gens. Et en fait, c'était assez simple. Une fois que la dernière personne était installée, on était là. Le régisseur, nous, qui était sur le plateau avec nous, parce qu'il était aussi musicien, nous disait, bon ben, on peut y aller. Et on y allait. Et il y avait un rapport très simple, de fait. J'avais plat devant moi une masse anonyme, planquée dans l'obscurité, et dans laquelle on peut se dire, oh là là, oh là là, oh là là, on peut fantasmer et vraiment commencer à avoir peur si on y réfléchit 30 secondes. Hein? Non, c'était une personne et j'avais installé cette dame-là et je sais qu'elle avait un problème de hanche, que donc elle voulait être de ce côté-là. Et voilà, et je veillais à ce que cette dame-là, elle soit bien installée. Et une fois que tout le monde était bien installé, alors on pouvait commencer à raconter l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est formidable d'avoir des gens qui viennent encore se rassembler pour qu'on leur raconte des histoires. Moi, ça n'en finit pas de me toucher.
Ce que vous racontez, c'est votre manière de faire du théâtre, c'est l'illustre théâtre de Molière à Pézenas.
Mais
c'est ça,
absolument.
Qui se ça n'empêche pas après ça d'occuper l'hôtel de Bourgogne.
Sans vouloir frimer, il y a un peu de
mais
ça.
Mais bien sûr.
Disons qu'on avait un répertoire contemporain. Les gens nous prenaient vraiment pour des rigolos parce que on avait créé notre théâtre. C'est-à-dire, on se disait, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre? Alors, c'est des entrées, des sorties, donc il nous faut au moins un rideau. On avait notre rideau. On a des entrées, des sorties, on a peut-être des coulisses aussi, parce que peut-être on change, donc des coulisses, d'accord. Et on avait notre théâtre modulable, hein, qui pouvait nous servir à tenir un siège. On pouvait tenir une semaine largement, voire deux semaines, sans jouer le même spectacle, tous les soirs. Donc c'était un répertoire contemporain. Et nos conditions techniques, ça faisait beaucoup marrer les régisseurs, c'était 4 mètres d'ouverture, une prise.
Bon.
On avait des rampes. Alors évidemment, hein, c'était pas... On est d'accord, hein, c'était pas du Bob Wilson. Hein. C'est évident. Hein.
Non mais... On va se faire une raison. Hein.
Faut se faire une raison aussi. Hein. Mais il y avait une humanité. L'humanité n'y perdait pas.
Bien sûr.
Le rapport direct, la chose qui fait que cet instant qu'on est en train de vivre, il est unique et il reviendra pas. Parce que ça, c'est une chose, l'instant... Il passe et il est déjà oublié. Il est, je veux dire, c'est cette chose-là de l'éphémère, moi, qui fait qu'on est quand même convié à ça. Hein. On est tous conviés à l'éphémère et on est tous éphémères. Et c'est cette chose-là de l'instant, du présent, qui fait qu'on se rassemble tous, et vous et nous, hein, qui nous unit, le temps d'une histoire.
Mais sans doute n'en aviez-vous pas conscience, mais vous pratiquez l'alternance avec votre troupe, vous faites tous les métiers du théâtre finalement, mais vous étiez vraiment fait pour la maison de Molière, vous.
En tout cas, je mesure aujourd'hui, en étant dans cette maison, le luxe que je vis au quotidien.
Mmh. Racontez-nous ça, c'est très important.
Mais le fait, d'abord, Aliette peut en témoigner, qu'on a une chose à s'occuper, c'est de jouer. C'est très compliqué quand on est intermittent. La plupart du temps, un projet chasse l'autre. Alors que là, notre planning est merveilleusement tenu par Aliette qui dit « Bon, ben là, tu peux pas le faire, mais là, peut-être, tu vas réussir à faire les deux. » Donc, on n'a qu'une chose à s'occuper. Et en fait, on est aussi porté par tout le monde. Je veux dire, vous voyez les techniciens qui travaillent qui font à 5 heures la salade. Ce qu'on appelle la salade, c'est-à-dire le passage du décor qui se répète l'après-midi au spectacle qui joue le soir, vous les voyez travailler, mais vous êtes béat d'admiration. Mmh. Vous montez dans les ateliers, vous voyez les repasseuses qui travaillent sur vos costumes, les ateliers tailleurs à tous les niveaux. Vous avez des artisans merveilleux. Et vous, quand vous rentrez, l'éclairagiste, tout le monde, tout est là pour vous. Hein, alors, vous rentrez porté par tout ça. Moi, quand je rentre sur le plateau, je suis porté par tous ces gens-là. Donc, ça rend très, très heureux. Mmh. Et oui, très heureux. Et tranquillement, ça me tranquillise d'être aussi porté par tous ces gens-là.
Ce sont des choses dont on parle finalement assez peu de cela. Du métier du costume, de la manière de concevoir les choses.
Mais pourtant, c'est formidable quand vous rentrez en scène, mais oui. Vous voyez les costumes quand même.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous demandais si vous vous appréciez en costume. Parce qu'il me semble, de l'extérieur, que c'est pas quelque chose de gratuit, ni de finalement tellement léger, que de revêtir un costume et au fond de l'imposer au spectateur. Il y a quelque chose là-dedans sur lequel... Moi, j'ai pas vu tellement de textes, à vrai dire. Mais votre témoignage nous intéresse beaucoup.
La question du costume, moi, je trouve qu'elle est très... Il y a des costumes qui vraiment... où les coutures même vous donnent la possibilité de bouger ou pas. Mmh. Il y a des costumes qui guident vos mouvements, où vous ne pouvez pas forcer à aller dans ce sens-là parce que le costume résiste, mais il faut l'écouter. Parfois, on a vraiment besoin d'appréhender le corps parce que ça va guider le langage du corps. Le costume va le guider. Voilà. Comment je vais ramasser mon manteau. Voilà. Ça va être évidemment du jeu. C'est la respiration de la même dont il est question. Au même titre que la ponctuation, c'est une ponctuation du corps, le costume. On en a besoin. On a besoin de respirer avec, de transpirer aussi un peu dedans pour le faire sien.
Le costume, c'est la ponctuation du corps. Mm-hmm. C'est une très belle formule, ça. On va. Signé Pierre-Louis Calix. Non, mais c'est pas mal, hein.
Ah, ouais. On la refait pas, alors on la garde.
Mais enfin, le metteur en scène est là aussi pour vous suggérer des choses, dans la manière de vous approprier le dit costume.
Non, mais bien sûr, mais c'est toute la question de. Je trouve qui est passionnante dans notre métier, c'est d'être à la fois parfaitement libre, mais à l'écoute de. À la fois du texte, de ce qu'on en ressent, et bien sûr de la vision du metteur en scène. Il y a des metteurs en scène. Qui vous nourrissent tellement merveilleusement. Je repense à Jacques qui me dirigeait, j'étais sur Jacques Lassalle qui me dirigeait sur... Je l'ai connu sur Figaro Divorce. J'avais quatre répliques. C'était le client du bar. J'avais quatre répliques. Donc c'est vite vu. Il a passé plus de 4 heures avec moi sur cette scène-là. Mais parce que il me disait, mais c'est une vie. C'est une vie, et une vie, même si elle a 4 répliques, c'est une vie, c'est un monde qui rentre sur le plateau.
Arrêtons-nous un instant sur ce spectacle, c'était en 2009 par là, quelque chose comme ça. Et vous êtes donc choisi par Lassalle, pour interpréter un rôle épisodique, dites-vous.
Et il y en avait deux, il y avait le troisième douanier aussi.
Oui. Vous jouez plusieurs rôles, effectivement. Bon. Et de quoi s'agit-il avec la salle dans ce cas particulier? Vous dites, on passe 4 heures. Qu'est-ce qu'il vous dit ou qu'est-ce qu'il vous demande?
Mais ce qui est formidable, c'est qu'il donne énormément de nourriture. D'abord, c'est un érudit, c'est un grand lecteur. C'est-à-dire qu'il interroge l'œuvre, et même s'il la connaît, j'ai retravaillé avec lui sur l'école des femmes. Il l'avait déjà montée, c'est une pièce qu'il connaissait. Il réinterroge, il remet en question, il repart à zéro, il se contredit. Ça, c'est formidable quand même, parce que il vous dit une chose un jour, mais le lendemain, il vous dit pas le contraire, mais complètement autre chose. Et au départ, j'étais parfaitement paumé, je me disais, mais Jacques, vous m'avez dit ça...
Vous lui dites, vous.
Ah oui. Jacques, vous m'avez dit ça hier, aujourd'hui vous me dites ça...
Attendez, je voudrais comprendre. Vous m'avez dit ça, ça veut dire une intonation, une manière de se tenir...
Non, il ne dirige pas du tout à l'intonation, il dirige au sens, à la pensée.
Ouais.
À une chose fondamentale, c'est-à-dire à une chose qui va vous amener à jouer, mais pas à une chose extérieure. Hein, c'est une nourriture profonde du personnage. C'est-à-dire qu'il interroge, Jacques, il interroge, j'ai jamais vu quelqu'un interroger, fouiller autant à la fois l'œuvre et en même temps la patte humaine. C'est-à-dire, il connaît les deux. Il connaît bien l'auteur, il connaît bien l'œuvre et bien aussi l'homme. Donc, c'est ça qu'il essaye de manier, quoi. Et de triturer et il n'est jamais satisfait. Il est totalement insatisfait, mais en même temps, dans ces contradictions, vous vous présentez le jour de la première et vous avez un champ de possibles extraordinaire. Parce que tout ça est possible, parce que les répétitions, en fait, c'est ça, c'est déterminer un champ de possibles.
Mais ça, manifestement, cette méthode-là vous convient, vous enrichit, vous féconde, etc. Je peux imaginer que pour certains autres de vos camarades, ce soit au contraire très troublant. Cette espèce de latitude qui vous demeure jusqu'au moment de la présentation, non ?
Non, mais vous savez, enfin, je pense que mes camarades, ils connaissent bien les écrits de Jouvet. Et je crois que c'est Jouvet, c'est un acteur qui disait ça à Jouvet. Maître, vous m'avez dit ça, aujourd'hui vous me dites ça. Il disait, oui, additionne. Et c'est ça, additionne. Faisant quelque chose, le tout, c'est que tu en fasses quelque chose. Le tout, de façon, c'est que ça crée du jeu. Voilà, et que ça crée qu'on se rassemble sur un questionnement commun et que on travaille dans ce sens-là. Alors après, c'est vrai qu'on peut travailler une fois comme ça, une fois comme ça, mais c'est que de la richesse. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité. Il y a des questions à remuer.
Vous évoquiez le costume. On vient de parler d'un metteur en scène parmi beaucoup d'autres qui vous ont fait travailler ici ou ailleurs, Jacques Lassalle. Je voudrais qu'on parle de vos partenaires. Ce sentiment de réappropriation qui va vous incomber au moment où le rideau va se lever, où effectivement le metteur en scène, la salle ou d'autres, vous a donné un champ de possibles, mais dans lequel vous allez vous mouvoir à votre initiative. Tout ça, évidemment, doit être partagé par vos camarades de jeu. Comment ça se passe, ça ? C'est le travail de la répétition.
Mais c'est le travail de la répétition. Les camarades de jeu ont assisté à toutes les phases de travail. On a travaillé ensemble. Donc, ils sont tout à fait au courant. Puis, je pense que un acteur aussi, il est content du présent. C'est vraiment un cadeau. Enfin, c'est le même nom. C'est un cadeau. C'est-à-dire que lui aussi, on sait bien que le diable, c'est l'ennui. On sait bien qu'à un moment, si ça ronronne, ben, c'est un petit peu de mort qui s'insinue. Alors, même si c'est bien, même si ça fait la blague, encore 2-3 représentations, mais on sait au fond de nous quelque chose est en train de s'émousser, est en train de mourir tout doucement. Et alors, il faut mettre un coup de pied là-dedans et recommencer. L'opportunité qu'on a, c'est de recommencer tous les soirs. Alors, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Parce qu'on a justement délimité un périmètre, je dirais. Un périmètre de jeu où, ensemble, on s'est entendu sur quelques règles. Si je te fais ça, paf. Et puis après, se laisser surprendre. Plus on connaît les chemins, plus il faut faire attention. C'est comme les routes qu'on connaît trop bien en voiture. On risque l'accident.
Très peu de temps après votre entrée ici, Muriel Mayette vous a donc engagé dans les conditions qu'on a dites et elle vous met en scène. Vous qui êtes un acteur venu du théâtre contemporain, même si vous avez joué du Molière et d'autres choses encore, vous avez interprété beaucoup d'auteurs contemporains. Et là, là c'est Coltès dont il s'agit. C'est Le retour au désert, bon, en 2007. C'est vachement impressionnant, ça, non ?
C'est très impressionnant parce que, oui, parce que je démarque, c'est elle qui m'a engagé. Mais vous savez, c'est tellement rien ce que j'ai à faire sur ce spectacle que le risque est très relatif. Elle me met à Richelieu, mais sur une chose, voilà, où je ne suis pas au premier plan. Donc, j'ai aussi, c'est une manière de se familiariser, je crois, pour elle. Et pour moi, à ce que c'est que de rentrer à Richelieu, ce qui est quand même un choc, de découvrir cette salle. Il y a tellement de passé, tellement d'histoires, tellement de fantômes qui sont là.
On va revenir justement à la fantomatique, si j'ose dire. Mais si je citais Coltès, c'est pour le rapprocher d'un autre grand contemporain, lui aussi disparu prématurément dans des conditions comparables, qui est Jean-Luc Lagarce, l'année d'après. Bon. Rétrospectivement, je me dis au fond, on vous a préparé à Lagarce via Coltès, et voilà que vous jouez ce spectacle vraiment absolument inoubliable pour ceux qui l'ont vu, avec un rôle considérable. Et là, j'ai l'impression vraiment que vous vous êtes révélé non pas seulement à vos camarades ou à l'administratrice générale, mais au public. Et ça, j'aimerais qu'on s'arrête là, sur ce moment-là, à la fois déchirant et me semble-t-il, vous allez me dire si je me trompe, mais fondateur pour vous.
Vous savez, c'est des rencontres. C'est vrai que je pense que il y a des rencontres dans la vie qui vous changent, des rencontres avec des personnes, et ça marche aussi. Enfin, il y a aussi des rencontres avec des rôles. Et je me rends compte que c'est un spectacle pour moi aussi fondamental. C'est-à-dire que il m'a fait comprendre aussi, comprendre une chose que j'avais peut-être pas compris, que c'est vraiment Jean-Luc Lagarce et Louis qui me l'ont fait toucher du doigt, c'est que la question de l'absence et de la présence était intimement liée. C'est-à-dire, ce dont était doué aussi un acteur, et souvent on a peur, on se dit « Oh là là, il faut que je sois présent, présent ». Mais la question qui est fondamentale, c'est la question de l'absence. Et le rôle le permettait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive et qui déjà est sur le départ. C'est quelqu'un qui vient annoncer sa mort, et dès le départ dès le prologue, il dit qu'il est déjà mort. Donc c'est vraiment par la grâce du théâtre, qui est de fait l'endroit des fantômes, si on réfléchit au nombre de gens qui, avant vous, ont interprété les rôles que vous dites ce soir. C'est impressionnant, le nombre de morts est écrasant, on le sait bien. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui est mort, qui revient par la grâce du théâtre. Et c'est une foi merveilleuse que aussi, je trouve, dans le théâtre et dans les mots, parler aux vivants, mais aussi aux éphémères, donc, de son départ, et à travers son départ parler. C'est cette chose là que j'avais aussi lu chez Lagarce. C'est aussi très autobiographique, évidemment, même s'il s'amuse à mélanger les cartes. La chose de Louis, l'auteur, celui qui est parti, qui a quitté la famille pour aller écrire, tout ça, c'était évidemment très très proche de lui. Donc la question à la fois d'être sur le départ, la question de la mort, la question aussi de l'autobiographie, très rapidement, et de la partition extrêmement écrite, extrêmement mise en page, avec des retraits, des retours à la ligne, des tirés. Vraiment, c'est pas de la prose, c'est vraiment une écriture très particulière. Je crois qu'on a été tous sensibles, tous autant que nous étions dans la distribution, à cette partition. C'était une partition à apprendre, et de cette partition naîtrait, si on veut, entre guillemets, le jeu. Mais ne pas brusquer l'incarnation, elle viendrait d'elle-même. C'est-à-dire qu'il me semblait que c'était de la partition qui nous ferait apprendre le souffle, et que déjà apprendre le texte, c'est déjà commencer à respirer, mêler notre souffle d'acteur au souffle qu'a voulu l'auteur pour sa créature de papier, hein, cette chose-là. Et c'est vrai que je pense que le personnage de Louis m'a réellement appris ça, que l'absence et la présence étaient une seule et même chose. Qu'on pouvait, c'est un paradoxe, qu'on pouvait peut-être les opposer, mais que de cette rester absent, entre guillemets, à soi-même, ça permettait de faire de la place, à la fois pour ce qui pouvait surgir, et qu'on n'avait pas prévu, puisqu'on n'était pas comme ça sur la volonté, mais sur, au contraire, une espèce de nudité, la page blanche, se présenter juste là. C'était vraiment le début du spectacle. La page blanche, plus penser... En fait, c'était plus penser à l'autre qu'à moi. Hein. C'est ça la question. Mmh. Et je me rendais compte que peut-être on ne s'était pas planté du tout parce que, vous savez, quand on travaille à Richelieu, les derniers moments, il y a des gens. Ça aussi, c'est très très beau. Ça me touche. Il y a des gens des ateliers qui viennent voir le spectacle. Ou des comédiens, ou des techniciens, ou des couturières. Et les gens, en fait, très rapidement, me parlaient plus du spectacle, me parlaient plus de... Ils me parlaient de leur vie. Ils me parlaient de leur rapport avec la famille. Et je me disais, waouh, ça c'est formidable. C'est-à-dire que je me disais, on parle pas des performances d'acteurs. Hein, l'acteur, c'est pas mis en écran devant de... Non, il a redonné... J'avais l'impression que la question était de redonner en partage. C'était que je me suis dit, tiens, alors c'est ça. Peut-être qu'être acteur, c'est prendre la parole, mais pas pour la confisquer, mais pour la redonner. Pour faire que cette histoire-là, et d'autant plus... Ça, c'est le génie de Lagarce. D'autant plus cruciale et solitaire, parce que je pense qu'on est très seul quand on meurt, faire que cette parole soit universelle. En tout cas, parle à chacun. Et je me disais, s'il y a autant d'histoires qu'il y a de spectateurs, alors, on n'a pas perdu notre temps.
Quand vous sortez du plateau, après avoir interprété juste la fin du monde, le retour à la vie d'avant ou la vie d'après, ça doit être terrible, non ?
Non. Non, parce que ça se terminait d'une chose... c'était une chose formidable, je trouve, comme il terminait la pièce. Il y avait une chose à la fois... Il y avait une foi dans la vie. Et quand on... J'ai lu parallèlement... Ce qu'il y avait de formidable, c'est que j'ai eu le texte très tôt. Mmh. J'ai pu rêver dessus pendant quasiment 6 mois avant de passer au plateau. Et c'est une chose formidable, hein, de pouvoir s'imprégner lentement du texte. Moi qui ai tellement galéré à apprendre mes leçons à l'école, le bonheur que j'ai aujourd'hui à m'imprégner doucement, à faire qu'à un moment les mots se déposent et que je n'y réfléchisse plus, qu'ils soient là, comme faisant partie de un peu de moi, doucement. Là, j'ai vraiment le temps de me dire, ah, alors, comment je... rends compte de ce passage à la ligne. Comment je rends compte de ce tiré-là, cette chose en tiré, pourquoi il l'a marqué en tiré, pourquoi il rattaque par une majuscule, là. Poser des questions vraiment techniques, et pas des questions d'incarnation, justement. L'incarnation est venue très très loin, très très, très très tard.
Dans les journées où vous avez interprété le soir le plus souvent, une pièce aussi dense, aussi forte, aussi mémorable que juste la fin du monde. Les journées devaient être marquées par cette représentation de 20h30. Comment vous en sortiez ?
C'était très très drôle, hein, je vous assure, en même temps. C'était vraiment... On s'est beaucoup amusé. Ouais. C'est un spectacle où on a beaucoup ri.
Ouais.
D'abord parce qu'il y a Laurence Tucker. C'était un rire totalement tragique. Mais c'était un rire... Moi, je me rappelle très bien qu'avant de rentrer, on était tous les cinq... derrière le rideau, le régisseur venait me voir, il me disait « Attention, tu vas... » Et je rentrais après par le rideau, l'écran où, et en plus, c'était ma photo, la photo de moi enfant. Donc, c'était assez troublant aussi. Mais il nous faisait tellement rire que j'avais les larmes aux yeux. Et donc, j'étais en larmes, et je me rappelle de gens qui me disaient « mais c'est formidable que tu rentres et t'es hyper ému. Et c'était vrai aussi, parce que...
C'est une émotion, le rire.
Je venais de rire aux larmes avec Laurent.
Okay, ouais.
Et j'arrivais, et en même temps, je me disais, mais waouh, tous ces gens, ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces gens rassemblés. En plus, je sais que Jean-Luc Lagarce avait eu du mal à monter cette pièce. Ouais. Donc je me disais, waouh, mais c'est tellement bien qu'il soit là. Il devrait être content aujourd'hui s'il était là. Voir que il y a tant de gens que ça intéresse. Alors c'était une petite pensée pour lui aussi. Alors c'est vrai que j'étais... Les larmes venaient de Laurent, mais quand je rentrais et que je voyais le théâtre comme ça, et je me disais, tous ces gens sont là, ah, c'est bien, on va y aller doucement alors.
Est-ce que ce spectacle demeure pour vous un point d'ancrage, quelque chose qui a été précédé et suivi, mais comme un môle à quoi vous... Vous vous êtes attaché, ou est-ce que c'est nous, notre impression, est-ce qu'on a raison et tort?
Non, non, mais moi, pour moi, c'est un spectacle fondamental. Je pense qu'il y aura avant, juste la fin du monde.
Oui.
Et après, clairement, dans mon appréhension du métier, et même bien au-delà, il y a une chose qui a changé. Mais je dois aussi à cette écriture magnifique, à la mise en scène, parce qu'on aurait très bien pu jouer cette pièce d'une manière naturaliste, et je pense qu'on échappait complètement à on faisait des histoires, une histoire privée, comprenez ce que je dis, on pouvait faire une histoire privée, on pouvait faire aussi des numéros d'acteurs et confisquer la représentation, hein. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve qu'il y avait une économie à avoir, c'est-à-dire... Mais il y a toujours une chose, j'ai toujours été fasciné par les acteurs, les monstres sacrés, ce qu'on appelle les monstres sacrés, en effet, des gens qui arrivent sur scène et on est happé, littéralement happé. Mais dans ce phénomène-là aussi, on est un petit peu prisonnier, hein, on est un petit peu sous influence. Quelque part, on n'a plus de marge de manœuvre, on ne pense plus, on est absorbé comme un lapin dans les phares de la voiture, quoi. On est, vous voyez? Et je crois qu'il y a une chose qui à cet endroit-là, grâce à ce spectacle, a changé fondamentalement. Je crois que je suis plus intéressé par une chose qui tient malgré tout un petit peu du vide aussi. Et de cette chose-là, de l'éphémère, des fantômes. À la Comédie Française, il y en a plein.
Vous iriez jusqu'à dire que, après avoir joué Lagarce, vous êtes meilleur acteur qu'auparavant?
Oh non, 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 je crois pas. En tout cas, je sais que c'est, je suis pas préoccupé de la même chose. Je pense que j'ai lâché un certain nombre de choses. Oui, je pense que j'ai lâché un certain nombre de choses.
C'est un peu ce que je voulais dire.
J'ai peut-être moins de velléité de prouver. Que je suis un acteur, enfin, ouais, moins de velléité de prouver, j'ai plus envie de me présenter sans phare, d'être plus simple, et j'aspire à ça, ça veut pas dire que c'est ce que je fais, ça veut dire que j'y aspire, et que ce spectacle m'a donné, voilà, cette envie-là. Voilà, de pas faire voir tout ce qu'on sait faire. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait, il faut le désapprendre à chaque fois parce que les béquilles techniques font que aussi... Il y a une chose qui est formidable pour avoir travaillé avec des amateurs lors d'ateliers, c'est que quand on est amateur et qu'on se lance pour la première fois sur un plateau, on n'a que ça. Que le cœur battant qui palpite et cette envie, et malgré la peur, l'envie plus forte de se jeter à l'eau. Eh bien, je crois que, professionnel, il faut se rappeler de nos premières fois aussi.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous. Pour tout ça.
C'était École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretenait avec Pierre-Louis Calixte de la Comédie Française. Prise de son, Yves Lehorse.